Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. La saison régulière achève et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour le Canadien de Montréal qui tranquillement pas vite là, on le voit là, ils ont hâte que ça se termine. Mes analystes qui sont autour de la table pour l'émission d'aujourd'hui, je vous les présente immédiatement. Michael Lalancette du côté de Québec. Salut Michael.
Salut Philo.
Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Et Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Bon, les gars, le Canadien hier a accordé 4 buts en première période. Ça n'a pas été une bonne première période pour le Canadien. Ils se sont inclinés 5-2. Ils ont accordé 10 buts lors des deux derniers matchs. Et ça fait en sorte que le différentiel du Canadien aujourd'hui, qui était retourné là, dans les positifs là, dans les derniers jours, ben se retrouve encore une fois. On est à moins 6 maintenant pour le nombre de buts accordés cette saison. Débutons avec un commentaire général sur le match d'hier. Et ça peut être aussi, on peut interrelier le match contre les Sénateurs aussi, là, si on veut. Jérémy, je te laisse commencer là-dessus.
Écoute, c'est je sais pas comment qualifier la première période du Canadien. Je trouve ça très, très dommage pour le jeune Caden Primo qui a semblé ébranlé en début de match. Puis là, c'est cliché. Là. Ce que vous entendez, c'est un cliché. Parce que je pense que personne qui peut expliquer la contre-performance de cette équipe-là en première période hier. C'est décevant. C'est décevant de voir que l'inertie qu'on a eue face aux Sénateurs d'Ottawa s'est transposée dans la première période face aux Leafs de Toronto. Et pour moi, je trouve ça extrêmement décevant. Malgré le fait qu'il y a des blessés, malgré le fait d'un paquet d'affaires, malgré le fait que les Leafs de Toronto ont toute une puissance, que ton niveau de compétition ne soit pas à niveau, justement, pour être capable d'offrir une saine compétition face aux Leafs, pour moi, c'est inexplicable. Inexplicable. Je comprends que le Canadien a joué beaucoup de matchs. C'est quoi, 5 semaines de suite avec
à 4 matchs.
4 matchs, ça, c'est énorme. Il y a des blessés. C'est gros, c'est énorme. Il y a des blessés, je le comprends. C'est un club qui est fragile, je le comprends. Mais d'être prêt mentalement à jouer un match, pour moi, c'est non négociable. Tu dois être prêt. Et on n'a pas fait ça dans le match hier. Fait que le jeune Primo, écoute, c'était juste pas drôle à le regarder. Là.
Non, c'est ça. Disons qu'il n'avait pas une bonne dans le corps, puis le club en avant de lui, il l'a vraiment pas aidé. Guillaume, est-ce qu'on a pris la bonne décision en le sortant après la première période?
Oui, absolument. Puis même, j'ai bien aimé en plus que Ducharme explique sa décision de finalement qu'il a décidé d'attendre vraiment à la fin de la période pour pas risquer une blessure à Jake Allen. C'était très correct, mais non, tout à fait. À 3-0, c'était clair, je pense, qu'il sortait, là, qu'il n'y avait pas...
Trois buts sur neuf lancés.
Puis, non, le troisième en particulier, celui de Engvall qui prend son propre retour sans angle, c'est pas supposé rentrer.
Non, c'est ça. C'était pas une bonne game pour lui.
Non, mais Jean, il était brandé, là. Tu vois ton club devant toi, là, qui bouge pas, pas capable de compléter deux passes.
J'ai toujours cette analogie-là en tête quand je pense à des gardiens, là, puis ça vient strictement de moi, là. Je suis pas en train de citer un coach de gardien, mais tu sais, quand tu joues au pool, un bon joueur de poule, il va jouer son coup, il va se placer pour son prochain en jouant. Tu sais, il y a ce degré de confiance-là de se dire, je vais essayer ma shot, je vais tout de suite passer à ma prochaine. Ben, un goaler qui est en confiance, ça va être, tu sais, il va faire son arrêt et il pense déjà, ben, soit qu'il va bien rediriger le retour, qu'il va déjà être bien positionné pour la suite. Mais un goaler qui a pas de confiance pense seulement à faire le premier arrêt parce que justement, t'es pas en confiance. Tout ce que tu veux, là, c'est, t'espères que la rondelle te frappe, là, de faire ce premier. Puis après ça, il arrive ce qui arrive, puis c'était un peu ça Primo, puis tu voyais son hésitation dans les gestes quand Mazin a tiré sur le poteau, tu voyais là c'était pas un gardien qui avait un body language de gardien. Qui avait pas confiance, mais puis c'est ça, c'est normal à cet âge-là contre cette équipe-là et surtout avec cette équipe-là devant lui.
Exactement. Donc on ne lui en veut pas trop. Michael, est-ce que tu aurais préféré voir peut-être Primo jouer contre les Sénateurs, une équipe plus faible, et Jake Allen contre les Maple Leafs? Je veux dire, c'est facile de dire après, de toute façon, de la façon dont le Canadien a joué dans les deux matchs, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais comment tu vois ça?
Non, ben c'est sûr. Après coup, en voyant ce qui s'est passé, c'est sûr que on voit pas comment on voit juste quasiment des avantages. Parce que, tu sais, au fond, c'est raté de tout, à tout point de vue. Kaden Primo, ça n'a pas été bon pour sa confiance. Est-ce que ça va être, tu sais, ça va-tu jouer dans la tête pour la suite? Je pense pas. Ça a bien été fait hier. Mm-hmm. Mais on a aussi raté une belle occasion de reposer Jake Allen parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Carey Price pour la suite. Fait que, tu sais, on a comme perdu à tout point de vue. Est-ce qu'ils ont misé pour essayer de faire du chemin au classement, de chauffer les Jets? Je sais pas, mais tu sais, là, c'est sûr qu'on regarde ça après coup, puis on voit que des avantages à avoir inversé les rendez-vous. Tu sais, je trouve qu'ils ont pris dans les circonstances d'hier, c'était la bonne décision de retirer Primo après la première période. Mais c'est sûr qu'après coup, tu sais, on aurait peut-être aimé ça voir à l'inverse, là, sauf que là, c'est raté à tout point de vue.
Oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, des fois, je me souviens, moi, ça va toujours me frapper, mais en 18-19, il y avait eu, en fin de saison, pendant le voyage en Californie, le Canadien jouait deux matchs en deux soirs, comme ça, et Claude Julien avait envoyé Antti Niemi dans le premier match, plutôt que Carey Price, parce que je pense que c'était une question de succès d'un face à l'autre équipe, mais bref, et finalement, le Canadien avait perdu les deux matchs, et Niemi avait coûté une des victoires, justement, et je me souviens que la logique qui était ressortie à ce moment-là, c'était de dire, joue le premier match pour gagner, vas-y avec ton meilleur dans le premier match, parce que de toute façon, à la base, t'as théoriquement de meilleures chances à ton premier match qu'au deuxième match en deux soirs.
Exact.
Donc, tu sais, mets tous tes œufs dans le même panier dans le premier, puis après ça, tu géreras le deuxième, mais essaie d'abord de gagner le premier, puis je pense qu'en mettant Allen contre l'équipe la plus faible des deux, ben c'est un peu comme ça que Ducharme a géré. Donc, moi, là-dessus, j'ai pas de problème avec cette gestion-là. T'essaies de gagner à Ottawa, puis après ça... Regarde, il arrivera ce qui arrivera à Toronto.
Voyez-vous, moi, là, je suis pas de ceux qui vont critiquer Dominique Ducharme parce que je pense que ce gars-là arrive avec d'une situation où c'était déjà beaucoup de vagues. Là, mm-hmm. Le bateau était frappé de part et d'autre. La seule chose, c'est que ce qu'on se rend compte dernièrement, c'est que ça fait une couple de fois que, j'utilise le terme en anglais, ça fait une couple de fois qu'il guesse et ça fonctionne pas. Il a essayé de guesser avec Jesperi Kotkaniemi, on va l'enlever du centre, on va le mettre à l'aile, après on va l'enlever de l'aile, on va le remettre au centre. Et là, ça a déstabilisé deux autres trios à cause de son guess, parce qu'on veut relancer Kotkaniemi avant le début des séries de fin de saison. Parfait, j'ai pas de trouble avec ça. Sauf que t'as défait Caulfield avec Jake Evans, t'as pris Jake Evans, tu l'as envoyé à l'aile, trouve que c'est déjà une saison de bonbons mélangés. À un moment donné, on peut-tu garder qu'est-ce qui marche? Là, t'arrives et tu guesses Kaden Primo, t'as guessé avec Jake Allen. Là, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde respire un peu par le nez. Là. On va mettre les choses simples, là, le plus simple possible. Là, dans le match d'hier, Philippe Dano était blessé, il n'a pas fini la rencontre.
Ouais. On dit que c'est une blessure au haut du corps, ça serait pas très sérieux. Mais en même temps, si tu perds Dano pour une coupe de match ou une coupe de semaine, là, au palais.
Bon, mais là, attendez. Là, ben, sauf que Ducharme s'est prononcé là-dessus. Il pensait pas que c'était sérieux, il croyait pas que c'était à long terme.
Il a quand même dit, par exemple, qu'il reste des choses à vérifier.
Je pense qu'aujourd'hui, là, il devait passer les tests.
Si on commence les séries, d'après moi, Dano va être là, j'imagine.
Ben, c'est sûr que c'est ça. Il y a encore presque deux semaines.
Bon, c'est ça. Bon. Ceci étant dit, là, tu vas avoir, quand je vois le centre, tu vas avoir Suzuki. Là, ça va être lui le 1. Tu n'as pas le choix. Tu vas avoir KK, ça va être lui le 2. Tu vas avoir Jake Evans, ça va être lui le 3. Puis tu vas avoir Eric Staal, ça va être lui le 4. Si Staal joue bien, il peut aller prendre des tours au 2, au 3. Est-ce qu'il va le faire au 1? Je pense pas. Mais t'as ça. Là, un moment donné, arrêtez. Là, à un moment donné, tu prends Caulfield, tu l'envoies avec Dano. Faites des choses pour que ça fonctionne simplement.
Moi, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Je veux dire, on peut pas s'en aller dans la dernière semaine qui mène aux séries. Bon, on sait pas qui joue où, avec qui. Puis, tu sais, je veux dire, au moins des paires. Faut au moins des paires qui disent, ces paires-là, ils bougent pas. Puis, gars, commencez à vous préparer parce que vous allez jouer ensemble durant les séries.
Sauf que c'était difficile hier, là, quand tu manques, t'es 11. Fait qu'à 11, c'est sûr que c'est pas paire.
Il y a quand même beaucoup de roulements. Il y a Tatar qui est revenu aussi pour déstabiliser ça encore. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, par contre, là, qu'il faut. Oui, les trios changent, mais le personnel change aussi. Donc, c'est difficile d'avoir de la stabilité dans ce sens.
En tout cas, moi, je sais que les gens ne veulent pas entendre d'excuses, mais pour moi, je vois un club extrêmement fatigué qui, à un moment donné, va obtenir des soubresauts, peut-être, va être capable d'aller chercher des victoires en prolongation. Mais pour moi, ça m'a l'air d'un club extrêmement fatigué dû à tout ce qu'on vient de mentionner, là, les quatre matchs par semaine depuis cinq semaines. Est-ce que, Michael, tu as eu un problème avec le fait que les Leafs ont envoyé leur meilleur joueur sur la patinoire en fin de match à 5-3, alors que le score était 5-2? Est-ce que toi, ça te dérange? Et surtout, est-ce que ça a dérangé, selon toi, les joueurs du Canadien?
Ben, je vais commencer par moi. Moi, ça ne m'a pas dérangé pantoute parce que, hey, on prépare les séries, les gars, puis il y a eu plusieurs matchs entre ces deux équipes-là qui ont été serrés cette année. Je regardais, si on enlève les buts marqués dans des filets déserts, c'est 6 matchs sur 9 qui ont été tranchés par un but entre Montréal et Toronto. Fait que s'il y a eu un avantage à aller prendre psychologique puis essayer de faire mal à ton rival en fin de saison comme ça, les Leafs ont devant eux... tu sais, les Leafs, c'est pas une équipe qui est parfaite, là. Même en ce moment, on les voit jouer à certains moments donné, puis il y a des signaux quand même un peu inquiétants. Mais, tu sais, ils ont devant eux le Canadien, qui ont vécu... une équipe qui a vécu son lot de difficultés depuis une couple de semaines. Bien, tu sais, tu prépares les séries, puis tu veux attirer avantage de tout, là. Alors ça, c'est la première chose. Puis, le dernier élément par rapport à ça, c'est que, tu sais, le Canadien avait quand même marqué 2 buts depuis le début de la deuxième période. Le Canadien gagnait la deuxième portion du match, là.
Ouais. Si on regarde ça, il restait, ça. Il restait 2 minutes et demie, là. C'était pas mal réglé.
Mais... Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai eu aucun problème à voir ça, sincèrement.
Ouais. Puis pour ajouter à ce que tu dis, je pense comme toi, Michael. Puis oubliez pas que les Maple Leafs depuis 2 mois, l'avantage numérique, ça marche pas du tout. Ils sont à 7% depuis 2 mois. Et Sheldon Keefe, dans son point de presse d'avant-match, Sheldon Keefe, donc disait avant le match, mon problème, c'est qu'on génère pas assez d'avantages numériques. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne pas, parce qu'on en a juste 1 ou 2, puis des fois 0 par match. Donc là, il y avait la chance d'avoir un beau 5-3. On le sait, les équipes ont pas beaucoup de temps d'entrée. Donc, aucun problème. Je veux dire, le match, ça devenait une pratique finalement, puis c'est très correct. Les Maple Leafs doivent faire ce qu'ils ont à faire pour préparer l'équipe.
Ben moi, j'espère que ça les a fâchés, joueurs du Canadien, de voir ça. J'espère que, souvenez-vous, Josh Anderson, après la victoire du Canadien, je pense, où le Canadien est revenu, non, contre les Leafs, ou la défaite contre les Leafs, je me souviens pas laquelle. Il a dit, tu sais, je pense pas que les Leafs étaient à leur mieux ce soir, tu sais.
Oui, le Canadien avait perdu ce soir-là. Ouais,
avait perdu. Je pense pas que les Leafs étaient à leur mieux. Nous, on aurait pu en profiter, tu sais. Attends, minute. Là, tu dis à Josh Anderson après une défaite, on aurait pu y battre parce qu'il n'était pas si bon que ça. Boum, t'arrives, le match d'après, c'est 4-0 en première période. T'sais. Pas le match de façon consécutive, là, mais boum, c'est 4-0. Fait à partir de là, que eux décident de mettre leur avantage numérique, faut savoir que le 5e but, c'est Austin Matthews qui l'a marqué. C'était son 40e. Et pour un 5e but qui compte pas beaucoup dans un match, le gars, il avait un gros sourire. C'était un plateau de 40 buts.
Ben ouais, c'est sûr.
Et ça amène toute la fiche personnelle, les statistiques. Tu veux que tes joueurs continuent à aller chercher des points. Fait que oui, tu vas voir Marner. Oui, tu vas voir Matthews. Mais moi, j'espère que ça a fouetté les joueurs du Canadien. Puis malgré la fatigue physique et mentale, il faut que tu allumes. Si tu n'allumes pas là, tu n'allumeras jamais. Là. À un moment donné, tu dois avoir un niveau de compétition qui est décent. Et ce n'était pas le cas en première période. C'est pour ça que le match était difficile.
Oui,
c'est
tout. Oui, ça a été difficile à regarder. Les deux matchs, là, on va se le dire, en 24 heures.
Je te dirais pire celui contre les Sénateurs. Malgré que Toronto a marqué 4 fois, en 2e, le Canadien était là, puis en 3e, ils ont compétitionné. Mm-hmm. Les Sénateurs, c'est 60 minutes, t'es pas là.
Non, t'es pas là. T'es
60 pas là. Minutes à regarder les Sénateurs de haut en disant on peut revenir n'importe quand. Hey, non, mais ça manque-tu d'humilité un petit peu, là? Sincèrement, là.
Puis le Canadien, là, depuis un mois et demi, là, essaye de dépasser les 20 tirs au filet, là, c'est compliqué. C'est incroyable quand même. Malgré tout ça, le Canadien se retrouve dans une situation où leur chiffre magique est de 3. Donc, 3 points récoltés ou une combinaison de 3 points perdus avec les Canucks classe le Canadien pour les séries. Là, les chances sont quand même de 99,4%. Dire qu'il y a un mois, les gars, on disait, ben là, assurons-nous de notre place en série, puis après ça, on va pouvoir gérer, tu sais, les blessés, les gars fatigués. Hey, on arrive au dernier week-end. C'est pas encore officiellement réglé. C'est incroyable. C'est incroyable de voir qu'on est là. Oui, Michael.
C'est fou, là. C'est hallucinant. Moi, quand j'entends en point de presse dire, on n'était pas prêt, on a été surpris. Hey, excuse-moi, là, mais là, si vous n'êtes pas prêt là, vous allez être prêt quand, là?
Moi, je pense qu'ils sont fatigués, puis ils peuvent pas le dire.
Mais oubliez pas quelque chose.
Ils peuvent pas le dire, parce que les gens vont le taper dessus.
OK, mais oubliez pas que... Là, j'ajoute Dano là-dedans. Dano, Gallagher, Weber, Price, Drouin, Byron. Ça, c'est des gars qui sont pas là présentement.
Mais moi, la fatigue, c'est une excuse que j'accepte. Les blessés, c'est pas une excuse que j'accepte, parce que c'est tu quoi? Il était pourri avec tous ces gars-là aussi.
Ben, pas tout le temps. Je pense
souvent.
Écoute, combien de fois ils ont eu l'alignement complet? honnêtement. Là.
Non, c'est pas
première,
vrai, ça.
En première moitié de saison, ils ont été très saison, en santé. C'est plus en deuxième moitié. Mais ça reste que les problèmes de l'équipe se sont déclarés pendant que l'équipe est en santé. Tu sais. Donc,
absolument.
Moi, c'est là-dessus que je rejoins un petit peu quand même Jérémy. Là. Tu sais, je veux dire, oui, les 10 premiers matchs, là, on revient souvent à ça, puis c'est vrai que ça, tout allait bien pour le Canadien à ce moment-là. Mais c'est ça, même avec une formation complète, il y a quand même eu des problèmes. Pendant un bout, le seul blessé, ça a été Yoel Armia, je pense, pendant à peu près le premier mois et demi.
Oui.
C'est le seul blessé qu'ils avaient eu.
Ben après ça, il y a eu la COVID, puis tout ça. Mais écoute, là, recule il y a un mois, là, regarde l'alignement du Canadien, presque tout le monde est là, puis ils jouent comme des pieds pareils. Fait que tu sais, pour moi, les blessés, ça représente pas une excuse. D'ailleurs, j'aurais peut-être pensé que ça aurait été mieux parce qu'on aurait eu des jambes fraîches et pendant quelques matchs, ça a quand même bien fonctionné, là, quand on a inséré des nouveaux joueurs parce qu'il y avait trop de blessés.
Mais c'est un club intriguant. Difficile à prévoir de quelle façon ils vont réagir. Depuis le match contre les Oilers d'Edmonton, souvenez-vous cette victoire où le Canadien menait 4-1 puis ils ont gagné 4-3, mais ils ont marqué deux buts les Oilers en fin de match. Ouais. Ce match-là, pour moi, c'est un match baromètre sur ce que le Canadien doit être pour espérer avoir une performance en série de fin de saison qui est adéquate, à la hauteur des attentes de Marc Bergevin. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas revu ce club-là. Pas une fois. Là, il y a eu des blessés, mais j'ai pas revu ce club-là qui était sans pitié sur la glace, tant offensivement, défensivement, en avantage numérique, en désavantage numérique. C'était un club qui était efficace.
Mais moi, je pense que, écoute, avec une bonne pause puis avec le retour de certains joueurs, je pense qu'ils sont capables de nous offrir du meilleur hockey. On va en reparler tout à l'heure. Mais je me pose une question parce qu'il y a des gens qui me l'ont posé. Là, je l'ai pas mis dans la section des questions du public, mais quand même, je pense que c'est intéressant. Je sais que le Rocket de Laval va continuer de jouer. Pendant les prochaines semaines. Je pense qu'il reste encore 5 matchs, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que ce serait intéressant d'inclure Joël Bouchard à l'équipe d'entraîneurs comme assistant, peut-être pour participer aux séries éliminatoires? Présentement, là, je pense qu'ils peuvent utiliser toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Mm. Puis, tu sais, Joël, je pense que s'il finit pas l'année dans la Ligue américaine, c'est pas dramatique non plus. Il n'y a pas de séries éliminatoires. Comment vous voyez ça?
Ben, premièrement, le dernier match du Rocket, c'est le 17 mai, donc ça va nous mener à peu près au début des séries. Moi, je pense que Bouchard va quand même finir son année avec le Rocket, mais de toute façon aussi, quand le Rocket va finir, oubliez pas qu'il va avoir ce qu'on appelle les Black Aces. Là. Je veux dire, l'équipe canadienne va avoir la liberté d'amener quelques espoirs, continuer à s'entraîner avec le Canadien, tout ça. Dans mesure où le Canadien a un entraîneur de moins dans son staff, parce qu'oubliez pas que Julien et Muller sont partis et il y a seulement eu Burroughs qui est ajouté, donc t'es déjà à moins un dans le staff. Moi, je pense que Bouchard va suivre de toute façon, ne serait-ce que pour diriger les entraînements des Black Aces, tout ça. Et puis après ça, ben là, est-ce que tu l'intègres à tes matchs? Là, ça, c'est une autre décision. Je sais pas si c'est nécessairement utile derrière le banc, c'est ça, tu sais, d'arriver avec une nouvelle dynamique.
On a passé la saison à changer le messager, là. Et on a fait ça pendant toute la saison. On vient pas rajouter une nouvelle voix là-dedans. Je dis pas que ça peut pas être extrêmement utile pour Burroughs et Bouchard d'avoir une troisième tête.
L'utiliser en haut, par exemple.
L'utiliser en haut, c'est le problème, tu sais. Puis tu peux l'utiliser. Puis vous savez que c'est ce qu'on faisait. Ça, c'est, faut le rappeler. Puis Michael, je veux t'entendre là-dessus. Lorsque Dominique Ducharme était coach, équipe Canada Junior, Joël était en haut avec le micro puis l'oreillette, là. Il se parlait, là. Et Michael, tu t'en souviens de ça?
Ben oui, exactement. Joël était directeur général de cette équipe-là. Puis, tu sais, ce sont deux grands amis. Alors, moi, je pense que ça connecte. Sont au diapason pour ce qu'ils pensent par rapport au hockey et tout ça. Ça, j'ai pas de trouble. Moi, le seul bémol que j'ai par rapport à ça, c'est une voix de plus, là, comme tu dis. Puis, le fait que c'est comme si ça sous-entend que le problème du Canadien, c'est encore derrière le banc. Et moi, ça, j'achète pas ça. Avec l'effectif actuel.
Ouais, ben, je comprends, t'as raison, mais en même temps, moi, je pense que le gars, il t'a donné quelque chose depuis quelques années, il fait du bon travail, je pense que ce serait une récompense pour lui. Comme on vient de le mentionner, ce sont des hommes qui se connaissent déjà très bien. Moi, je pense qu'on peut travailler ensemble, on peut sortir, on peut soutirer des bonnes idées.
Ils vont le faire, mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas avoir plein de personnes qui parlent aux joueurs.
Non, je comprends, c'est peut-être pas ça son rôle.
Ils vont l'utiliser, je suis convaincu, mais tu sais, le message aux joueurs, il faut que ça, à un moment donné, là, ça fait. Tu sais, ils sont pas capables d'avoir deux trios pareils, deux matchs de suite. Fait que tu vas pas rajouter en plus quelqu'un de nouveau qui va rentrer là-dedans. Là, ça suffit.
Non, mais tu sais, les trios, c'est en tout cas, je sais là, que c'est pas facile avec les gars qui sortent puis qui rentrent d'alignement, là, mais c'est rendu une vraie blague, là, tu sais, on va se le dire. Autre question, on en a parlé un peu, je crois, au début de la semaine ou la semaine dernière, concernant la possibilité de voir des spectateurs être permis au Centre Bell pour les séries éliminatoires.
Grâce à ta question, Philo, faut
oui,
que
exactement,
ta question,
grâce à ma
bravo.
Question
bravo,
que une fois. Notre collègue Louis Lacroix a posée au premier ministre. Mais là, on a des indicateurs qui nous portent à croire que c'est peu probable. Parce que si on regarde là, ce qui se passe au mois de juin, le gala de boxe là, a été annulé pour cette raison-là. Il n'y aura pas de boxe au Centre Bell le 18 juin parce qu'on ne veut pas que les spectateurs entrent dans l'édifice. Là, on parle de la mi-juin. On sait que le Grand Prix aussi, ça, si ça avait lieu, c'était probablement à huis clos. Donc, il n'y aurait pas eu de spectateurs non plus. Est-ce qu'on va faire une exception pour le Canadien?
Moi, je pense que ça, c'est juste une question de logistique. C'est complètement différent. Alors, premièrement, le Grand Prix, je pense une négociation de quarantaine. C'est là qu'on n'a pas été capable de s'entendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour la boxe versus le Canadien de Montréal, tu sais, Guillaume, tu vas au Centre Bell, tu vas, tu sais, il y a des écrans thermiques qui prennent ta température. Tu sais, est-ce que le groupe Yvon Michel était prêt à s'investir, à avoir toute l'infrastructure?
Ben, c'est quand même un gala qui est fédéré par la WBC. Et le, en tout cas, jusqu'à maintenant, non, la WBC n'a pas vraiment eu. Non, mais ils le font. Là. Ils ont un protocole sanitaire à la boxe.
Je comprends,
aussi,
mais pour faire rentrer des gens, ce que je dis, c'est quand tu vas au Centre Bell présentement, là, les écrans thermiques, tu as un système informatique qui donne un code. Comment on appelle le code
QR.
Un code QR que tu arrives, tu es obligé de scanner. Après, ça scanne ton visage. Est-ce que on était prêt à investir tout ça ou à louer l'effectif qui est en place? Je ne le sais pas, mais c'est onéreux. Fait que donc, si tu me dis entre quelqu'un qui veut faire quelque chose qui n'a pas l'infrastructure nécessaire, puis la Ligue nationale de hockey qui a l'infrastructure, d'après moi, ça va être plus facile pour la Ligue nationale, selon mon point de vue.
Ben c'est ça. T'sais, puis le Canadien peut quand même compter sur justement l'expertise du reste de la Ligue, c'est-à-dire que les spectateurs dans les gradins, ça a été testé ailleurs dans la Ligue. Je pense que là, c'est 23 des 31 équipes qui ont des spectateurs maintenant. Donc, tu sais, c'est ça, il y a une expertise partagée au niveau de la Ligue. Puis le Canadien, sans manquer de respect pour le groupe Yvon Michel, mais le Canadien, c'est une grosse entreprise de 500 employés. Ouais. Je veux dire, ils ont justement du personnel pour gérer tout ça. Et puis, ben, je pense pas que le groupe Yvon Michel a les mêmes ressources. Là,
non, donc, mais ils sont quand même backés par la WBC qui fait des galas aux États-Unis et il y a des spectateurs. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, ça se passe quand même très bien. Il n'y a pas vraiment eu de cas d'éclosion. Là. En tout cas, on verra. J'aurai la chance de parler à Yvon Michel demain, samedi. Donc, à l'émission Les Amateurs de sport week-end, il va pouvoir tout nous raconter ça. Bon, ben, on va s'arrêter sur le Canadien ici. Je sais que c'est plus court que d'habitude, mais on a tellement de sujets de Ligue nationale. On voulait un peu donner une
petite pause. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Ligue nationale?
Rien. Absolument rien.
C'est du hockey comme dans le temps.
Un sacré coup de poing sa gueule. Bon, voilà. Alors, petite pause. On revient dans quelques instants.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Voilà de retour maintenant pour les sujets ailleurs dans la Ligue nationale. Alors, messieurs, ça a été une journée difficile au bureau jeudi pour la Ligue nationale qui a essuyé plusieurs critiques des amateurs de sport pour sa sanction de 250 000 $ aux Rangers alors que Tom Wilson, lui, n'a payé que 5 000. Je comprends que là, tu as une organisation versus un seul athlète. Mais dans l'épopée où on vit présentement, là, où il y a des injustices dans le monde, de dire que c'est plus grave de dénoncer que de fesser sur quelqu'un puis de risquer de le tuer. Honnêtement, les gars, je trouve que la Ligue nationale, cette semaine, a vraiment manqué son coup. C'est pas un bon message que tu lances, là.
C'est vrai que la Ligue a manqué son coup. Par contre, j'accroche pas sur les montants d'amende parce que l'amende de 5 000 $ de Tom Wilson, c'est quelque chose qui est conventionné. De toute façon, je veux dire, ta décision est mauvaise. À partir du moment où tu le suspends pas, après ça, le montant de l'amende, c'est anecdotique parce que c'est conventionné comme ça depuis toujours.
Tandis que l'amende... Visuellement, ce que les gens
je sais. Mais...
J'essaie de tuer 5 000, je dis quelque chose qui fait pas ton affaire, 250 000.
Oh, oui, tout à fait, mais c'est ça. Sauf que les amendes aux équipes, elles sont pas conventionnées. Puis n'importe quelle organisation comme ça, quand tu remets en question de façon si nette l'autorité, c'est normal que ça frappe fort. Par contre, on peut tout à fait se questionner sur justement la décision de George Parros. Est-ce que c'est un ancien homme fort qui devrait réellement s'occuper de la sécurité des joueurs? Qu'est-ce que tu sais? Quelle culture du hockey pour faire en sorte que ce qu'on a vu là est acceptable? Il y a beaucoup d'autres questions, mais moi c'est juste pour ça que les montants des amendes comme tel, c'est pas quelque chose sur quoi j'accroche.
Moi, je veux juste revenir premièrement sur l'amende de Tom Wilson de 5 000 $. C'est complètement ridicule. Puis je sais que tout le monde regarde du côté de George Parros, mais il faut regarder un bonhomme qui s'appelle Colin Campbell. Colin Campbell, qui est le directeur des opérations hockey dans la Ligue nationale, lui est là depuis longtemps. Il en mène large. Il a son point de vue hockey sur tout ce qui se fait. Tu sais, on approche les séries. Les Capitals de Washington ont un gros club cette année. Si tu suspends Tom Wilson, t'es obligé de suivre le fait que c'est un récidiviste. Fait que tu peux pas le suspendre juste pour un match. Il y en a eu de grosses suspensions. Fait que donc, lui s'est dit, si on le suspend, les gars, on va être obligé de le suspendre pour au moins 10-12 matchs. Fait que donc, ça veut dire, t'hypothèques un gars important pour les séries de fin de saison.
OK, ça. Tom Wilson.
T'as raison. Là. Pour moi, là. Mais Colin. Non, mais. Ben non, c'est important. Je veux dire, Tom Wilson, c'est un joueur important chez les Capitals de Washington.
On s'en fout comme l'an 40.
Ben, pas les Capitals. Mettons, toi, oui, mais les Capitals.
Mais la Ligue,
non.
T'as raison.
Oui. Ce que je veux dire, c'est que Colin Campbell, lui, a vendu ça. En tant que vieux gars de hockey, il a vendu ça. Tu sais, les gars, faites attention. Et George Parros a pris une décision, à mon avis, qui allait dans ce sens-là. Encore là, ça, de l'imagination. Moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est ridicule. Il va falloir à un moment donné que le politique arrête d'intervenir dans la sécurité des joueurs. Et ça, pour moi, c'est un problème depuis tout le temps. Maintenant, il y a un autre problème avec les Rangers de New York. Là, je regardais Cerevelli de TSN qui disait que, selon lui, Dolan, le propriétaire des Rangers, a congédié Davidson puis le DG parce que les deux étaient pas dans la même lignée que lui. Dolan voulait faire le communiqué. Le DG et le président, eux, voulaient pas. On s'est retiré parce qu'on s'est dit, écoute, si on embarque là-dedans, nous, on n'aura plus de job après. On va contre la Ligue nationale. Par la suite, Dolan congédie les deux autres. Il y a plein d'affaires à regarder là-dedans. Premièrement,
oui, parce que le timing est incroyable. Ça tombe 24 heures plus tard.
Non, mais ce qu'on comprend, c'est que Davidson, la première affaire qu'il a pensé, c'est sa job à lui. En partant, là, avant de penser à Panarin, qui est son joueur tout étoile, là, il a pensé à sa job. C'est que si je fais ça, j'aurai plus de job après. Même chose pour le DG. Dolan, lui, ce qu'il a pensé, c'est « Hey, mon joueur vedette, là, le gars là, que je paye le plus cher dans mon club, c'est lui qui se fait approcher, puis la Ligue le protège pas. Oh, yaub, vous autres, moi, je fais un communiqué. » Écoute, c'est du free-for-all, qu'est-ce qui se passe présentement. Et ça, pour moi, je trouve ça malsain que ça soit comme ça. Je veux dire, Dolan aurait dû appeler Bettman et dire « Hey Gary, excuse-moi, là, mon joueur est important, ça prend une suspension. »
Mais
mon joueur est important, mais c'est une vedette de ta ligue.
C'est une vedette!
Non, c'est une vedette de ta ligue, Gary. Là.
Dans une société nord-américaine où on se lève sur le bout de nos sièges pour dire que tout le monde a le droit de s'exprimer et de parler, à partir du moment où tu muselles les gens puis tu dis « Quand toi, tu sens que t'as une injustice, t'as pas le droit de parler, on a un maudit problème. »
Ouais, mais la liberté d'expression, à mon avis, faut voir une différence entre un groupe d'entreprises privées qui sont associées ensemble et monsieur, madame,
c'est
tout
ça,
le monde.
C'est
ça. Il y a une méchante
c'est pas une démocratie,
barge.
Je comprends, mais c'est eux autres qui donnent l'exemple. Les gens regardent vers ça.
C'est pour ça que je te dis que Dolan aurait dû appeler Bettman puis dire « Gary, excuse-moi, là, on va se faire une visioconférence là, et tu vas suspendre ce gars-là parce que ça, c'est mon joueur vedette. Mais tu veux pas lancer le message à travers la ligue. »
On aurait-tu aimé ça, nous autres, que Jeff Molson, une couple de fois cette année, se lève puis dise « Hey, ça n'a pas de maudit bon sens ce qui s'est passé. »
Il l'avait fait quand il y a eu Shara Pacioretty. Jeff Molson avait fait une sortie puis c'était au tout début en plus de son...
Mais c'était beaucoup plus doux que le communiqué des Rangers. Là.
Absolument, oui.
Ouais. Mais c'est politique. On revient un peu à ça. Puis le silence de toutes les autres formations de la Ligue nationale est un peu assourdissant dans ce débat-là. Je comprends que, bon, là, il y a des équipes qui ont peut-être pas voulu s'en mêler en disant on veut pas s'attirer les foudres de Gary Bettman. Le silence de Bettman lui-même a laissé place à un petit peu un flou jusqu'à ce qu'il y ait l'annonce de la sanction de 250 000 $. Moi, je trouve que c'est un fiasco. Ils ont raté leur occasion. Aujourd'hui, dans le New York Times, il y a une pleine page sur la violence dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont perdu la face de A à Z dans ce dossier-là. J'ai hâte de voir les conséquences. T'sais, peut-être qu'on n'a pas voulu faire de changement ou on n'a pas... Mais ultimement, c'est dur d'imaginer que ça n'aura pas des conséquences à moyen et long terme, là, tout ça. Là.
Mais moi, j'aimerais juste ajouter un autre point. T'sais, la Ligue nous envoie un message complètement contradictoire. Au courant des dernières années, on dit qu'on veut abolir la violence, les coups à la tête. Et là, soyons honnêtes, là. D'après moi, il n'était pas nécessairement choqué qu'à l'approche des séries, tu vois deux clubs qui se mettent à se tapocher dessus, là. Tu sais, en quelque part, là, d'après moi, il n'était pas complètement choqué.
Mon fil Twitter ce soir-là parlait seulement de ce match-là.
Exact.
Seulement. T'sais, ça revient au bon vieux, là, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Le monde en parlait. Là.
Exactement. Donc, lui, Batman, il a fait...
Mais non, c'est pas ça. Super...
Non, mais attends.
On parle des...
Si t'envoies des messages contradictoires, donc, si tu recules de là, 6 mois, 1 an, tu dis les quoi, la tête, c'est important, les joueurs, c'est important. Puis là, tu permets ça parce que ça fait de la bonne business. Parfait, numéro 1. Mais informez-nous. Parce que moi, là, j'ai joué au hockey dans les années 90. Fait que donc, dans les années 90, c'est comme ça que ça se réglait. Mais étant donné que la Ligue nationale a décidé de changer son navire de direction, ça fait en sorte que moi, l'Australopithèque, je suis obligé de changer de mentalité. Mais si vous voulez que ça revienne, moi, je suis prêt anytime. Puis on va commencer à parler pour de vrai. Si c'est ça qu'il veut, parfait, pas de trouble. Mais informez-nous, parce que c'est pas clair, là,
ouais, le message. Ouais, c'est ça. Puis c'est dont tu parles, ça se vérifie, puis Mick, tu pourras nous en parler, mais tu sais, cet effet-là des bagarres et de la violence en baisse dans la Ligue nationale, ben on est en train d'en ressentir les effets dans les circuits juniors. Puis je pense, je me rappelle plus c'est qui, j'ai vu passer la semaine dernière que la baisse des combats dans l'HJMQ cette année est en forte baisse encore une fois. Donc, tu sais, ce changement-là est quand même en train de s'opérer. Et puis là, ben c'est ça, ça revient, comme tu dis, au message contradictoire cette semaine.
Mick, je te laisse parler tout de suite après. Mais il y a une autre chose que je vais ajouter. C'est payant, la bagarre. C'est payant pour la Ligue nationale, c'est une publicité. Puis même, la Fédération internationale de hockey, on en a parlé, voulait permettre le 5 minutes pour un combat aux Olympiques.
Ouais.
Fait que donc, pourquoi? C'est payant. On aime ça, voir les gars se taper sa fraise. Mais c'est complètement absurde. Ouais, à un moment donné, regarde le message que t'envoies.
J'ai de la difficulté à comprendre que certains commanditaires ne se soient pas retirés et disaient, hey, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Là. On peut pas encourager ça.
C'est peut-être arrivé à un moment donné.
En tout cas, peut-être. Michael, là-dessus?
Mais tu sais, moi je pense qu'il y a quand même une nuance à faire entre de la rivalité, des bagarres dans le feu de l'action, puis 3-6 joueurs qui laissent tomber les gants à une mise au jeu alors qu'il y a rien eu dans le match. Tu sais, je comprends qu'ils s'étaient affrontés puis on réglait des comptes, mais là c'est pas Tom Wilson qui fait face à la musique là. Ce sont des joueurs qui on a vu des combats là-dedans. Là, tu sais, des joueurs qui ont pas l'habitude de se battre pantoute, puis qui ont,
tu sais, c'était pas les gants. Hey, Vucevic, là, quand il entendait Manta, là, c'est mon pied de céleri, là, je veux vous dire, là. Anthony Manta, là, quand il laisse tomber Mitaine, ça rentre au poste. Il était blessé d'ailleurs après un combat. Fait que Manta, le coureur en arrière, donne des petits coups d'injoret, puis il dit à Vucevic, ouais, peureux, viens-y. Fait que là, à un moment donné, Manta revient dans son visage. Vucevic, il a aucune idée comment se battre. Qu'est-ce qu'il fait? Première réaction, il a peur. Double échec en pleine face.
Ouais.
Manta, il est blessé, là. Je veux dire, c'est complètement stupide,
non,
cette affaire-là.
Non, ça n'a pas de bon sens. C'est complètement ridicule. Puis tout ça aurait pu être...
Je suis en train de m'emporter, moi. Je vais me calmer.
Non, mais... non, mais ça aurait
pas
dû...
C'est pas bon, ma pression, Philo.
Tu sais, si tu veux savoir si t'as pris une bonne décision, là, c'est les joueurs qu'il faut consulter. Puis dans le début de ce match-là, les joueurs ont fait passer le message. Ils ont passé le message que c'est nous autres qui on est obligés de régler nos propres problèmes parce que la Ligue ne le fait pas. Ils le diront jamais publiquement, si on le sait.
Ben, on
a essayé des
Canadiens. Quand Tyler Myers a planté Joel Armia, après, c'est Edmundston qui était se battre. T'sais, s'il arrive quelque chose, on va dire c'est quoi? Oh, on a laissé faire l'ordre supposé sur la patinoire? Ouais,
non,
ça pas de
non mais si le gars, là, il est expulsé et il est suspendu, il n'a pas de problème.
À
là.
Moins qu'on ramène le free-for-all. Si on dit qu'on ramène le free-for-all, parfait. Moi, j'ai pas de trouble. Je suis prêt, moi.
Ah, tu vois.
On voit tes yeux.
À moi, l'Australopithèque est pas très, très loin. Là.
Ouais,
il est en train de ressortir.
Bon. Bon, les gars, il reste 3 places à décerner pour les séries éliminatoires, dont une dans la division canadienne. Nommez-moi donc une équipe qui, cette année, vous a surpris ou qui vous a déçu.
Dans la division canadienne?
Non, n'importe où dans la Ligue nationale, que vous attendiez pas à voir là, peut-être okay. Déjà classé aujourd'hui, ou au contraire, déjà éliminé depuis déjà quelques jours.
Ben là, je pense pas qu'on peut être... on sera pas dans le champ gauche en parlant du Wild du Minnesota. Voir la performance que ce club-là a eu cette année, c'est vraiment... avec Kaprizov, c'est exceptionnel, qu'est-ce qui se passe là. Pour moi, c'est fun de voir ça. Minnesota, c'est un marché de hockey en plus. Fait que donc, je trouve ça intéressant que ça se passe là. Et déception majeure, les Flyers de Philadelphie.
Ouais, ça, c'est ma déception aussi,
hey,
les Flyers.
Les Flyers, au 1er janvier l'an passé, c'était la première équipe dans la Ligue nationale. On pensait aller faire un long bout dans les séries de fin de saison. On arrive cette année.
Mais je suis pas... Tu sais, OK, il y a 2 Québécois qui gèrent les Flyers, fait que je suis un peu déçu pour eux. Mais après avoir vu ce qu'ils ont offert comme performance l'année passée en série, notamment contre le Canadien, je les ai trouvés tellement plates à regarder que, mettons que je suis pas bien déçu qu'ils soient pas là cette année. T'sais, c'était vraiment de l'anti-hockey l'année passée.
Ben ouais, mais le Canadien, à mon avis, c'était la meilleure formation des deux dans les séries l'année passée entre le Canadien et les Flyers.
Oui, le Canadien méritait de gagner cette série-là.
Les autres, ils ont fermé le jeu et attendaient l'opportunité.
Hey, tabarouette, en tout cas. Avons-nous d'autres candidats, Guillaume?
Pour aller dans le sens de ce que tu dis, les Flyers sont effectivement, moi aussi, ma déception. Et cette déception-là fait en sorte que deux équipes moi, il y a deux équipes que je voyais pas en série cette année là, et je trouvais que ça avait une odeur de fin de règne, et c'est Pittsburgh et Boston. Boston, tu sais, ça partait croche. En plus, on savait pas quand Pasternak allait être de retour en début de saison. Chara parti, l'avenir de Tukaras qui était pas clair, tout ça. Donc je trouvais vraiment que ça sentait mauvais à Boston. Et puis non seulement vont être en série, mais sont en série et 71 points en 53 matchs là, c'est une fiche vraiment surprenante. Et les Pingouins qui pourraient même finir premier de leur division, eux aussi, on le sait, le noyau vieillit, tout ça.
Hey, Jeff Carter, 4 buts hier.
4 buts. Parlant de noyau qui vieillit.
Tu sais, là, c'est pas Stahl qui s'amène, qui a marqué en prolongation, il a marqué 4 dans le match.
Exact, exact. Fait que, tu sais, non, c'est ça. Eux aussi, je veux dire, on dirait que ça fait quelques années qu'on se dit, bon, c'est-tu l'année où ça va casser? Et ça casse pas. Et non seulement ça casse pas, mais c'est ça. Ils pourraient finir. Ils vont être en lutte avec Washington pour le premier rang, mais.
C'est plus en série pour les Pingouins dans les dernières années que ça a été moins bon. Fait qu'on va voir ce que ça va donner cette année. Michael, de ton côté?
Ben moi, je m'étais aussi noté les Flyers comme déception. Comme surprise, j'en avais noté quelques-unes. Le Wild, tu sais, considérant qu'ils ont dans la face le Vegas et Colorado, puis je regardais, tu sais, ils ont très bien fait contre ces deux équipes-là. Ils sont allés chercher 12 points sur 16 contre les Golden Knights. Fait que, tu sais, ils ont été capables de se tirer bien d'affaires dans une division quand même pas évidente pour eux. J'aurais le goût aussi de parler un petit peu des Islanders. Dans un sens, là, c'est pas une grande fin de saison pour eux, mais tu sais, c'est quand même une bonne division, puis c'est une équipe qui est coriace à affronter quand même soir après soir. Alors, ils ont fait un petit peu mieux que qu'est-ce que je m'y attendais. Puis parmi les déceptions, c'est sûr, les Flyers, on revient toujours à ça. Ça a vraiment, mais vraiment pas été...
Avec Carter Hart qui a connu une saison très difficile aussi. Oui, Guillaume?
Ouais, ben en fait, les propos de Mick me rappellent aussi que les Blues m'ont déçu cette année, même s'ils vont participer aux séries finalement. Parce que, tu sais, Mick, quand tu disais ils ont en face Vegas et Colorado... En début d'année, on disait aussi qu'ils avaient d'en face Saint-Louis, là. Puis c'était même très dur à départager sur papier.
Ça a pris du temps avant que Tarasenko revienne au jeu aussi.
Ouais, ben c'est ça, exact. C'est ça. Eux, c'est sûr que ça fait mal, mais ça reste que, tu sais, une équipe comme ça qui était vue comme presque aussi puissante que Vegas, Colorado, tu sais, donc, tu sais, une équipe puissante comme ça, en principe, devrait quand même se remettre. Puis surtout que c'est une équipe quand même qui est bien équilibrée, Saint-Louis, qui a quand même une attaque assez profonde. Donc, c'est ça, tu sais, de voir, là, ils sont là à 56 points en 51 matchs. Ils vont rentrer en série parce que derrière eux, on sait, les trois clubs de Californie puis les Coyotes, c'est faible. Donc, c'est pour ça qu'ils vont rentrer, mais j'avais quand même de plus hautes attentes pour les Blues.
Bon, les gars, la question que tout le monde veut savoir, là, est-ce que les Canucks vont vraiment être obligés de jouer tous les matchs restants à leur horaire? Parce que on sait que les Canucks, bon, à cause de la COVID et tout ça, doivent reprendre des matchs. Là-dedans, il y a plusieurs matchs, notamment contre les Flames de Calgary. Les Canucks et les Flames risquent, dès ce week-end, d'être probablement éliminés tous les deux. Si c'est pas le week-end, ça pourrait être au début de la semaine prochaine.
Tu penses qu'une victoire du Canadien, ça va arriver?
Ben, écoute, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va échapper des points en quelque part, je crois. Mais disons qu'au début de la semaine prochaine, tout est réglé. On connaît l'ordre des équipes qui vont rentrer en série. Les classements ne risquent pas de changer. Est-ce qu'on va vraiment nous faire languir une semaine de plus pour le début des séries dans la division canadienne parce que les Canucks doivent encore jouer des matchs sans signification?
Ouais, les trois derniers matchs des Canucks et des Flames sont un contre l'autre.
Ouais.
Donc, si jamais le Canadien arrive un moment donné à gagner un match, à aller récolter 2 points, puis peut-être un autre en quelque part un moment donné, 3 pour éliminer complètement les Canucks de Vancouver, on parlait de ça avant d'entrer en onde, puis tu sais, je me dis, est-ce que ça vaut la peine, sincèrement, de retarder les séries? Mais ça vaut la peine de jouer les matchs. Je pense que les équipes, les formations vont vouloir jouer les matchs pour passer des jeunes, pour essayer, pour regarder, pour faire une dernière évaluation. Mais je pense, puis pour les diffuseurs, en passant.
Ouais.
C'est surtout
ouais, mais
ça.
Les diffuseurs, les gars, là, sérieux, les séries sont commencées. Tu sais, parce que les autres vont jouer là,
ouais,
des matchs sans
ça
signification.
Fait partie de contrat, faut que tu fasses ton
exact.
Contrat.
Puis je vais rendre ça, puis montrer une game de d'or ou je sais pas quoi qu'ils vont montrer d'autres. Je pense que les diffuseurs vont vouloir montrer ces matchs-là. De toute façon, aussi, ça a déjà été mentionné plus tôt cette année que c'est pas impossible que advenant un déséquilibre dans le calendrier, que les séries commencent dans une division pendant qu'une autre division finit sa saison. C'est une année de COVID,
mais
c'est une année particulière.
Tu sais, je pense que la Ligue nationale va vouloir autant que possible essayer de débuter les séries en même temps partout si c'est possible. Et là, t'as deux équipes éliminées qui vont jouer une contre l'autre. Je peux pas croire qu'on va dire...
Les quatre clubs canadiens vont être bien, bien heureux d'avoir une petite pause supplémentaire avant de commencer les séries. Si on doit attendre, là, ouais. Je pense pas qu'il y a personne qui va chialer.
Ouais. Et là, il y a un match contre les Oilers qui pourrait aussi être sans signification, Michael, mais t'as un certain Connor McDavid qui essaye d'aller chercher une centaine de points. Est-ce que ça, ben, ça peut ça. Jouer dans la balance aussi, là?
Ah, c'est sûr. Je pense que c'est un débat qui, je dirais pas théorique, parce que tu sais, dans le fond, on se pose la question. Puis, sauf que il y a beaucoup en jeu. Tu sais, oui, tu parles de ça, du point de vue statistique, l'argent en ce moment là. Tu sais, tout le monde dans la Ligue nationale fait tout ce qu'il peut pour essayer de sauver à gauche, à droite. Donc, tu sais, compenser les diffuseurs. Tout ça, tu sais, c'est comme une espèce de liste là. Puis, on dirait que c'est la liste qui penche en faveur de jouer ces matchs-là est plus grand et plus long que les avantages à ne pas les jouer. C'est sûr que si ça offre du repos à tout le monde qui a tout intérêt à décaler le début des séries, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à jouer ces matchs-là, même si c'est sûr que du point de vue de l'amateur, du point de vue des médias, il n'y aura pas un grand intérêt. Mais, tu sais, ça demeure quand même qu'il Il y a plusieurs arguments qui penchent en faveur de ça.
En tout cas, je veux juste ajouter quelque chose. Sur le site, par contre, là, ça écrit to be determined. C'est ça que les quatre derniers matchs, là,
ouais.
Ça écrit.
Mais c'est pour les heures, en fait. C'est pour les heures des matchs. C'est ça qui est à déterminer. Puis c'est là, justement, probablement que c'est sûr que c'est des matchs qui sont diffusés à Sportsnet. Sportsnet est également le diffuseur de la Ligue nationale, donc présente les séries. Mm. Donc, tu sais, c'est sûr que si Sportsnet a un match Boston-New York à 7h, Boston-New York à 7h, puis un match de Vegas à 10h, ben, c'est ça, tu vas mettre Vancouver-Calgary en après-midi.
Un programme double de nuit.
Oui, c'est ça, exact.
Mais, je voulais juste dire, imaginez-vous, là, puis là, je veux pas être oiseau de malheur, là, imaginez-vous, le Canadien n'est pas capable de coller des victoires. Les Canucks de Vancouver, parce que moi, je pense que les Flames de Calgary, ça commence à être extrêmement difficile parce qu'il reste plus de matchs aux Canucks qu'aux Flames. Imaginez ça, puis les Canucks tombent sur une séquence puis ils se mettent à gagner. Et là, t'es obligé d'attendre jusqu'au dernier match des Canucks. Que ça va faire des bons podcasts, hein?
Ça, c'est certain. Mais moi, ce qui me fait plus peur, puis on n'en reparlera pas parce que c'était pas un de mes sujets, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'aux États-Unis, toutes les équipes ont toutes reçu leurs deux doses. Ici, les joueurs attendent encore. Et s'il fallait qu'il y ait une éclosion dans une équipe, avant les séries ou durant les séries dans la division canadienne, je pense qu'on s'arracherait les cheveux de sa tête.
T'as raison là-dessus.
Ça, ce serait l'enfer. Dernière question. Est-ce que selon vous, les matchs, là, le rythme des matchs en série va être bien espacé? Parce que je sais que nous, ça a été particulièrement éprouvant avec le Canadien puis les quatre matchs par semaine. Mais pour moi, là, le rythme des matchs a vraiment nui au spectacle. Vraiment.
Tu veux dire quoi? Trop de matchs?
Trop de matchs. Je veux dire, trop de matchs en peu de jours. Les gars ne peuvent pas offrir des performances intéressantes, inspirantes. Ça a beaucoup fait souffrir le spectacle, selon moi. Mm. Et j'espère qu'en série, ça va être relativement normal.
Mais 4 de 7, habituellement, c'est un match au quoi?
Au deux jours. Normalement. Ça arrive occasionnellement que tu as deux matchs en deux jours. C'est très rare, mais...
Je pense qu'ils vont quand même devoir en faire parce qu'oubliez pas, il y a deux pressions sur la Ligue nationale pour pas trop étirer les séries. La première étant les Jeux olympiques. On sait toujours pas s'ils vont avoir lieu, là, ça on verra, mais disons, tenons pour acquis que les Jeux olympiques vont avoir lieu. Le diffuseur NBC, donc, veut absolument que les séries de la LNH soient terminées quand les Jeux olympiques vont commencer.
On parle de terminer au 21 juillet, c'est ça?
Mi-juillet.
Ben, c'est ça, autour de la mi-juillet, là, donc j'ai pas vu la date la plus récente, mais c'est ça. Donc, il y a ça comme pression, puis l'autre chose, c'est que les codes d'écoute l'été dernier avaient pas été fameux. Ça a fait comprendre à la Ligue nationale que du hockey en plein été, là, ben, c'est ça, pour les codes d'écoute, c'est pas terrible. Donc, tu sais, n'étirons pas éternellement jusqu'en juillet. Alors, à cause de ça, moi, je serais
donc,
pas sûr.
Donc, tu penses qu'on va essayer d'avancer rapidement?
Avancer rapidement, je sais pas, mais tu sais, j'ai comme l'impression que l'espèce de compromis du gros bon sens serait peut-être que tu prévois une série de deux en deux par série, si on veut, tu sais. Donc, une fois passé, tu sais, les matchs 1, 2 ou 3, 4 qui sont joués dans la même ville, tu fais ceux-là.
Coller,
puis les autres après ça, tu donnes une journée de congé en chaque. Ça pourrait être peut-être le scénario le plus raisonnable si tu veux accélérer sans trop compromettre ton spectacle.
Ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, en fin de saison, là, vraiment, c'est très difficile. Bon, on s'arrête là-dessus et au retour de ceci, les questions du public.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Alors, nous voilà de retour avec notre dernier segment pour l'émission d'aujourd'hui, les questions du public. On va commencer avec celle de Frédéric Ouellet. La comparaison entre Keke et Cole Caulfield est frappante depuis que ce dernier est dans l'alignement. Et même s'il est encore jeune, on se demande comment relancer Keke. Va-t-on rater le développement d'une autre recrue à Montréal? Moi, les gars, j'ai donné à Keke tout le temps. Tu sais, je voulais pas m'acharner sur lui. Il est arrivé jeune, puis tout ça. Mais ça commence un petit peu à m'inquiéter.
Non, moi, t'es pas le seul. Non, mais c'est les Canadiens qui sont inquiets, d'après moi.
Ça commence vraiment à m'inquiéter. Puis là, je l'ai dit, là, ces médias sociaux, là, mais quand Kachuk a marqué, là, avant hier, là, moi, à chaque fois que Kachuk marque contre le Canadien, là, j'ai comme une boule dans le ventre, là. Tu sais, j'ai comme,
C'est difficile à expliquer, honnêtement. C'est difficile à vendre. Présentement, Keke joue avec une mollesse qui est dangereuse pour lui parce que ça brise sa confiance. Moi, la mollesse, je parle de la mollesse de son bâton. Je parle même pas de son implication physique.
Puis surtout quand tu vois l'engagement de Kachuk, tu te dis, hey, maudite affaire.
Je veux même pas embarquer avec ça. Okay, ça me tente même pas d'embarquer avec Kachuk. Ils ont fait un choix, c'est pas le mien, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais Keke, présentement, la force sur son bâton, tu sais, on le sait, la Ligue nationale, c'est une bagarre de bâton. C'est tout, je te lève le bâton, tu essaies de lever le mien, je garde pas. Et là, ça marche pas pour lui. Ça fonctionne pas, son implication est pas là. Tandis que dans la question, on dit, la comparaison entre Keke et Cole Caulfield est frappante depuis que ce dernier est dans l'alignement. Quelle comparaison qu'il y a? Je comprends pas la comparaison.
À part le fait que ce soit deux attaquants,
c'est parce qu'ils sont pas pareils, ils sont différents, complètement différents. Oui, oui. Un, c'est un sniper, l'autre est supposé de contrôler le jeu.
Peut-être que justement, il parlait du niveau de l'implication, mais là, il faut comprendre que Caulfield vient d'arriver. Donc, c'est sûr que tu as cette énergie-là.
Je pense qu'il est bon, le kid. Pour la mettre dedans, il est pas pire.
C'est ça, il est bon pour la mettre dedans. On voit quand même qu'il y a des limites et des difficultés dans le jeu d'ensemble, mais une fois franchi la ligne bleue, c'est exactement comme on l'attendait. Là.
Mais bon à mettre dedans, ça l'aide à gagner des matchs, je pense.
Mais c'est ça, exact.
Ça l'aide,
il y en a pas beaucoup dans ce club-là.
Sans la rondelle, on a eu Jacob de la Rose. Il était très bon partout, très bon.
Puis, tu sais, quand tu marques des buts, là, ça fait oublier bien les affaires aussi.
Oui, exactement. Ça
c'est vrai. Tu peux finir moins 3, t'as marqué un but, il y a encore scoré à soir.
Mais si ça l'aide à faire gagner ton club, c'est encore mieux. Là.
Mais Mick, est-ce que tu commences à t'inquiéter un peu pour la suite des choses pour notre ami Keke?
Ben, je m'inquiète pour Keke, mais je m'inquiète aussi pour le Canadien parce que ça a des conséquences, tout ça. Là. Ça fait en sorte que ça affaiblit beaucoup la ligne de centre. Puis, tu sais, si éventuellement le Canadien veut se ressaisir et tout ça, ils vont avoir besoin que les joueurs de centre soient bons, qu'ils aient l'âge qu'ils aient avec l'expérience qu'ils ont. Mais, tu sais, ils vont avoir besoin que ces gars-là soient capables de jouer du gros hockey. Puis en ce moment, c'est vraiment pas le cas. Alors, oui, je suis un peu inquiet pour Keke, mais je suis plus inquiet pour le Canadien parce qu'ils en ont besoin. Il faut que ces gars-là soient bons, considérant les gars qui sont vieillissants, qui ont moins à donner qu'ils ont donné. Mais il y a des jeunes qui doivent prendre la relève. Puis je pense que, tiens, on regarde les transactions que le Canadien a fait dans les derniers mois. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que ces gars-là soient capables de donner une contribution qui est pas là en ce moment.
Bon, OK, on va passer au prochain sujet. Antoine Isoire nous pose comme question. Peut-on se servir des blessures comme excuse? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai dit que j'acceptais la fatigue. Oui, crochet. Je n'accepte pas les blessures. Mais ça, c'est juste mon opinion. Est-ce que vous voulez revenir là-dessus, vite? Est-ce que les blessures, c'est une excuse?
Ben, tu sais, moi, je reviens à ce que je disais tantôt. Tu sais, pendant un bon bout de l'année, premièrement, le Canadien n'en a pas eu. Puis l'autre chose, c'est que les joueurs réellement importants de cette équipe-là cette année ont été épargnés. Là, je pense, tu sais, je veux dire, premièrement, en défense, le duo Petrie-Edmondson a peut-être été le plus stable du Canadien cette année. Là, Petrie a eu des moments difficiles, mais quand même, de façon générale, ça a été le duo le plus stable et également le duo qui a le plus alimenté l'attaque. Là, je parle plus de Petrie, évidemment. Bref, eux ont été en santé. Toffoli, Il a manqué quoi, trois matchs?
Quelques matchs.
C'est ça, exactement. Donc, Toffoli, Anderson, des absences brèves. Suzuki a été là toute l'année. Dano, jusqu'à ce qu'il quitte le match d'hier, a été là toute l'année. T'as eu Jake Allen en santé toute l'année. Puis Jake Allen, je m'excuse, mais c'est lui le meilleur gardien de cette équipe-là cette année.
C'est sûr.
Donc, je disais, oui, t'as manqué Price, là, mais je veux dire, Allen a été correct. Puis c'est pas, je crois pas que les blessures de Price ont nécessairement.
Les réguliers qui sont à l'extérieur de l'alignement n'ont pas fait la différence cette année.
Ben c'est ça exactement.
À part Gallagher, Jay.
C'est ça. Gallagher est le seul. Tatar, bon, a connu ses bons moments, mais encore là, au moment de se blesser, il était pas à son sommet. Mais c'est ça, effectivement, Gallagher est peut-être le seul que tu peux dire, lui, vraiment, ça a eu un effet. Mais là, encore là, si t'es à un leader comme ça, blessé, là, de t'effondrer, ça en dit peut-être long sur la qualité de l'équipe.
Michael, là-dessus?
Ben moi je j'achète pas l'histoire des excuses. Moi, je pense que le Canadien souffre plus du fait qu'ils se font pas souffler dans le coup, qu'il y a manqué d'enjeu dans cette saison-là, puis ça a contribué peut-être à ce que l'équipe soit amorphe, où on sent pas le sentiment d'urgence, ou c'est comme si que bon, le Canadien il perd, mais ça a pas de conséquences. Donc j'aurais aimé voir cette équipe-là avec un petit peu plus d'urgence dans le jeu, voir ce que ça aurait donné. Les blessures, écoute ça là, si on fait le tour de la Ligue nationale, toutes les équipes doivent composer avec ça. Des fois, il y a des équipes qui sont plus amochées que d'autres, mais non, moi, je rentre pas là-dedans.
Le manque d'urgence a amené le Canadien à patiner dans la boîte. Le coach, il l'a dit, on patinait dans la boîte.
On patinait dans la boîte, oui. Ben, c'est ça. Mais, ou dans slush. Mais non, là, c'est
plus dans la boîte.
On est rendu au mois de mai. Hein, c'est ça, des fois, la glace. Dernière question, celle de Chuck Maheu. Croyez-vous qu'il serait préférable d'avoir un préfet de discipline indépendant, un candidat sélectionné autant par les propriétaires que par les joueurs, mais qui aurait la liberté sur les amendes et les suspensions?
Moi, je pense que jamais ça va arriver. Sincèrement, jamais ça va arriver. C'est un circuit fermé, la Ligue nationale. C'est un club privé. C'est un show. C'est un grand cirque qui est établi à travers l'Amérique du Nord. Et puis, on veut avoir le plein contrôle sur le produit. On veut avoir un plein contrôle sur
Mais
ce qui
si
se passe.
Mais tu veux faire preuve de transparence, là.
Ils n'ont pas à faire preuve de transparence. Tu as à aimer ou non le produit, mais c'est pas leur job d'être transparent. Leur job, c'est de t'offrir un produit que tu achètes. C'est ça, c'est rendu une business, là.
Ouais. Exact. Parce que, moi, à mon avis, la seule vraie solution, si tu en veux un indépendant, parce que indépendant, s'il est sélectionné par les proprios puis les joueurs, est-ce qu'il est vraiment indépendant? Je sais pas. Si tu veux vraiment un préfet indépendant, il faudrait que ce soit la Fédération internationale qui gère ça. C'est vraiment la seule.
Et encore là.
Non, non, mais c'est ça, je vois pas ça arriver pour les mêmes raisons que toi. C'est une business privée, tout moi, ça.
Le tribunal du sport, à peu près. Là. C'est la seule affaire indépendante qui est
visible. Ben, c'est ça, exact. Donc, tu sais, c'est pour ça, ça revient à ce que tu dis. Je veux dire, c'est une business privée, puis il n'y a aucune business comme ça qui veut perdre un pouvoir qu'elle a. Mais si on voulait une vraie indépendance, ça serait ça. Ça serait de mettre ça dans les mains de l'IIHF. Et malheureusement, je vois pas ce jour-là arriver. Pourtant, ça ferait du bien parce qu'on s'entend que le hockey international est quand même beaucoup plus propre. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça faisait jaser l'histoire des changements de règlement faisait jaser parce que c'est ça. Le hockey international, c'est plus propre et l'IIHF, on le sait, est quand même fortement influencé par le hockey européen. Donc, c'est sûr que ça amènerait une autre vision, mais là, aucune chance de la Ligue nationale laisse aller ça.
Bon, on va arrêter ça là-dessus, les gars. On en a assez dit, je crois. Encore une fois, une bonne cinquantaine de minutes aujourd'hui à l'émission.
Tu ne demandes pas des prédictions si le Canadien va gagner contre Toronto?
Ah, ben, on peut faire ça. Hey, on s'en reparle quand, nous autres? Là, c'est pas confirmé. Lundi, mardi?
Lundi, il y a un match canadien qui affronte les Oilers d'Edmonton.
Ouais, je pense que c'était prévu pour lundi, mais je pense que c'est pas coulé dans le béton.
Et le prochain match, après ça, ça sera le mercredi.
Ouais, lundi, ouais. Mercredi, les matchs COVID contre Edmonton.
Bon, exact. Donc, mardi, ça ferait du sens, mais regarde, on vous revient lundi ou mardi, là, vérifiez vos médias sociaux. On va vous informer pour cela, puis on va aussi avoir un horaire là, pour les séries éliminatoires, ça c'est certain. Alors, Michael Lalancette, merci beaucoup d'avoir été là.
Et à la question, est-ce que le Canadien va gagner contre les Leafs? Oui. La réponse est, je ne sais pas.
C'est bon, très peu probable.
Je ne sais pas.
Ah, moi, ma prédiction, c'est que le Canadien ne gagne pas demain, mais il y a un des deux clubs qui va être éliminé ce week-end, Vancouver ou Calgary. Puis ils vont
en
rester juste
défaite.
Un. C'est ça, okay. Exactement. Donc, Michael Lalancette, Guillaume Lefrançois, Jérémy Rainville, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle sans faute au début de la semaine prochaine. Merci à François Brisson à la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci encore une fois d'avoir été là avec nous et on se retrouve dans quelques jours. Salut tout le monde.